7h à Paris, 5h en temps universel.
RFI Matin.
Bonjour à toutes et à tous, c'est RFI Matin qui commence avec le journal. Bonjour Martin Guez.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous.
Une trêve mondiale sauf pour la Chine, cible encore et toujours de la guerre commerciale de Donald Trump.
Pékin qui écope même d'une petite louche de sanctions supplémentaires dans son assiette tarifaire de 125 à 145% de droits de douane. La Chine qui prépare sa riposte, nous serons dans la capitale chinoise avec Léa Broadhurst, où le commerce entre Washington et Pékin n'est pas encore à l'arrêt.
Au Proche-Orient, l'aide humanitaire est coupée depuis un mois à Gaza.
Et un réseau d'ONG palestiniennes alerte les Nations Unies, elle dénonce la famine et le génocide subis par la population gazaoui et réclame au plus vite le retour de l'aide alimentaire. Khartoum accuse les Émirats Arabes Unis de soutenir les paramilitaires des FSR. Les autorités soudanaises réclament des mesures d'urgence devant la Cour internationale de justice. Enfin, en France, la loi de simplification rime avec régression pour les défenseurs de l'environnement qui pointent la suppression de nombreuses normes de protection.
Mini trêve en Europe et maxi hausse en Chine, l'escalade douanière de Donald Trump continue.
De 34 à 145% de droits de douane en quelques jours, une escalade rapide concernant les produits chinois. Pékin, ennemi juré absolu de Washington dans cette guerre commerciale entre les deux premières économies de la planète, et la Chine qui compte bien rendre la monnaie de sa pièce à Donald Trump. La Chine qui a déjà pris des mesures de rétorsion à hauteur de 84%, on retrouve en direct de Pékin notre correspondante Cléa Broadhurst. Bonjour Cléa.
Bonjour Martin, bonjour à tous.
Concrètement, Cléa, est-ce que le commerce sino-américain est totalement à l'arrêt ce matin ?
Alors non, malgré l'escalade des droits de douane et la rivalité stratégique, le commerce entre les deux puissances n'est pas totalement figé. C'est-à-dire que les États-Unis exportent encore de grandes quantités de produits agricoles vers la Chine, soja, maïs, viande de porc, bœuf, des denrées indispensables pour l'approvisionnement alimentaire chinois. Côté énergie aussi, les échanges se maintiennent, du gaz naturel liquéfié, du pétrole brut, même si les volumes varient selon les tensions du moment. Et la Chine, elle, reste incontournable pour de nombreux biens de consommation, meubles, vêtements, jouets, électronique, ces produits chinois remplissent toujours les rayons américains. Et les grandes marques comme Apple continuent de fabriquer une bonne partie de leurs appareils en Chine, même si certaines lignes de production commencent à se déplacer vers l'Inde ou vers le Vietnam.
La Chine qui monte au créneau en annonçant aussi de nouvelles contraintes sur l'exportation de terres rares.
Et oui, elle appuie là où ça fait mal. C'est un atout qu'elle utilise avec prudence mais efficacité. Pékin vient d'annoncer de nouvelles contraintes sur l'exportation de 7 terres rares qui sont utilisées dans les smartphones, les moteurs électriques et les missiles par exemple. Et limiter leur exportation vers les États-Unis, voire suspendre certains contrats, reviendrait à frapper le cœur industriel américain. Alors c'est un levier fort mais risqué, car à long terme, cela incite les États-Unis à diversifier leurs sources d'approvisionnement, Martin.
Merci beaucoup, Cléa Broadhurst, en direct de Pékin sur RFI. L'Union européenne qui a de son côté, elle, décidé de suspendre sa riposte douanière ce jeudi. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui dit vouloir donner une chance aux négociations. Dans le cas contraire, les contre-mesures de l'Europe entreront bien en vigueur. Bruxelles qui menace aussi de taxer les géants américains de la tech si les négociations n'aboutissent pas.
Une guerre douanière sino-américaine qui déboussole toute l'économie mondiale.
Un jour dans le vert, un jour dans le rouge, les bourses qui font le yo-yo cette semaine. Aujourd'hui, c'est rouge, très rouge, même à Wall Street qui clôture en nette baisse, mais aussi à l'ouverture des bourses asiatiques. Moins 3% pour celle de Taïwan, moins 5% à Tokyo. Le pétrole et le dollar qui dévisse aussi complètement, la devise américaine à son plus bas depuis 10 ans face au franc suisse par exemple, une devise considérée comme une valeur refuge. Un dollar faible, ce n'est pas forcément mauvais pour Donald Trump qui veut réindustrialiser les États-Unis, mais le président américain est peut-être allé un peu trop loin selon l'économiste Pierre Schoeffler.
Quelque part son objectif à terme, c'est que le dollar soit plus faible. Un dollar plus faible, c'est rendre l'économie américaine plus compétitive, c'est-à-dire les biens américains moins chers à l'export. Parce que de cette façon, il espère qu'on va produire aux États-Unis, de telle sorte que les États-Unis se mettent à exporter plus de biens à partir d'une production locale. Le problème qu'il a, là, il est en train de faire perdre la crédibilité du dollar comme monnaie de réserve des banques centrales mondiales. Donc, il a surtout créé une panique généralisée, parce que maintenant, plus personne ne comprend très bien ce qui va se passer. Et du coup, l'objectif de réindustrialiser les États-Unis, qui est l'objectif ultime, est pour le moment mis en stop, puisque aucune entreprise n'est prête à s'engager pour lancer des usines aux États-Unis sur un horizon de 5 ans ou 10 ans, où on a besoin de stabilité et de visibilité dans la politique économique.
Des propos recueillis par Nicolas Feldman. Tous nos contenus sur la guerre commerciale et ses répercussions à retrouver dans notre dossier spécial sur notre site internet www.rfi.fr.
Un réseau d'ONG lance un appel d'urgence pour Gaza.
Et dénonce une famine et un génocide en cours, décrit comme systématique et délibéré, alors que l'aide humanitaire est bloquée depuis un mois. Le PNGO, réseau d'ONG palestinienne, demande l'intervention de la force onusienne pour sécuriser l'acheminement de l'aide pour une population en situation d'insécurité alimentaire. À Jérusalem, Abla Jounaïdi.
C'est un appel urgent, un de plus, que lancent des humanitaires concernant la situation à Gaza dans un contexte d'escalade des opérations militaires israéliennes. Oubaï Aboudeh, du réseau des ONG palestiniennes, PNGO.
91% des habitants de la bande de Gaza sont en insécurité alimentaire de crise. 345 000 personnes se trouvant au niveau le plus extrême de la famine.
Préoccupante en particulier la situation des enfants et des mères allaitantes, dont 92% n'ont pas d'alimentation adéquate. Une action délibérée, soulignent les ONG palestiniennes.
Les aides sont à quelques kilomètres de là, à El Arish, en Égypte, à cause du siège israélien et l'utilisation de la faim pour accomplir un génocide. Nous appelons au déploiement d'une force de paix de l'ONU pour permettre l'acheminement de l'aide. Les vies des habitants de Gaza, du peuple palestinien, aussi sont précieuses.
Les ONG demandent aux États de cesser leur coopération avec Israël. Cette semaine, le secrétaire général de l'ONU a rappelé Israël à ses responsabilités de force occupante en matière d'acheminement de l'aide. De son côté, Tel Aviv a nié toute pénurie d'aide dans la bande de Gaza. Abla Jounaïdi, Jérusalem, RFI.
Et du côté de l'armée israélienne, un millier de militaires, pour beaucoup retraités ou réservistes, adressent une lettre ouverte au gouvernement réclamant la libération des otages, même si cela doit passer par un arrêt des combats dans la bande de Gaza. Une déclaration impardonnable, selon le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Les signataires qui vont être renvoyés.
RFI 7h07, à Paris comme à La Haye, les Émirats Arabes Unis sont le moteur d'un génocide au Darfour, selon le Soudan.
Accusation proférée devant la Cour internationale de justice. Khartoum accuse Abu Dhabi de soutenir les forces de soutien rapide du général Hemeti et les crimes contre la communauté massalite. Les Émirats qui nient toute implication et qualifient l'affaire de théâtre politique pour détourner l'attention de la guerre civile. Les autorités soudanaises réclament, elles, des mesures d'urgence. Les juges qui rendront leur décision dans quelques jours, Stéphanie Maupa.
Les Émirats arabes unis, complices des forces de soutien rapide dans le génocide des Massalites du Darfour, ce sont les accusations défendues par les avocats de Khartoum et par le ministre de la Justice soudanais, Osman Mohamed Kerr.
Le génocide en cours n'aurait pas été possible sans la complicité des Émirats arabes unis, notamment par l'envoi d'armes au FSR. Les Émirats Arabes Unis continuent de fournir au FSR des armes de plus en plus lourdes, notamment par vol cargo vers l'aéroport d'Amjaras, au Tchad voisin.
Les Émirats ont rejeté les accusations, notamment celles portant sur les livraisons d'armes aux forces de soutien rapide. L'ambassadrice aux Pays-Bas, Amira Al-Efeti, a reproché au Soudan d'instrumentaliser la cour.
Le requérant n'a pas porté cette affaire devant la cour pour soulager les souffrances du peuple massalite. Son véritable objectif et son unique motivation est de détourner la cour pour porter de fausses accusations contre mon pays et de se soustraire à sa propre responsabilité dans cette guerre et la violation du droit international.
Les juges se sont retirés pour délibérer. Leur décision devrait être rendue dans les prochains jours. Stéphanie Mopala et RFI.
Et ce mardi, cela fera 2 ans que la guerre au Soudan entre les généraux Hemeti et Al-Burhan a commencé. On y reviendra bien sûr toute la journée sur RFI.
On vote demain à Libreville comme à Franceville.
Ou encore à Oyem et Port-Gentil, près de 850 000 Gabonais appelés aux urnes pour la première élection présidentielle sans la dynastie Bongo depuis 1967. 8 candidats sont sur la ligne de départ. La journée de demain comme celle d'aujourd'hui qui ont été déclarées fériées par le gouvernement pour permettre aux électeurs de faire le déplacement. Élection donc au Gabon, Julien, mais aussi en Équateur. Second tour de l'élection présidentielle ce dimanche. Et hier, la campagne électorale s'est clôturée. Le président Daniel Noboa, qui sera opposé à sa rivale de gauche, Luisa González, dimanche dans les urnes. L'Équateur ravagé par le narcotrafic. Les deux candidats ont achevé leur campagne dans le port de Guayaquil, épicentre du trafic de cocaïne.
En Espagne, un espoir pour les jeunes migrants isolés.
Des mineurs non accompagnés, délaissés. Mais hier, les parlementaires espagnols ont voté pour une modification de la loi. Désormais, les communautés autonomes du pays seront obligées d'être être solidaire dans l'accueil de ces mineurs isolés. Une mesure particulièrement importante aux Canaries, ces îles espagnoles au large du Maroc, principale porte d'entrée de la migration ouest-africaine. Correspondance de Nicolas Kirilowitz.
La bataille juridique et politique aura duré 18 mois et désormais ce sont plus de 4000 mineurs qui profiteront du nouveau système de répartition validé par les parlementaires espagnols. Des enfants et des adolescents aujourd'hui pris en charge en grande partie par le seul gouvernement des Canaries à court de moyens pour remplir son devoir de protection, comme nous l'explique Lucas Pérez Martín, spécialiste du droit international à l'Université de Las Palmas de Gran Canaria.
Les îles Canaries, c'est 1% du territoire espagnol, 4% de la population espagnole, mais 50% des mineurs isolés en Espagne. Il est donc très compliqué et très coûteux de prendre en charge 4 ou 5 000 enfants dans un système comme le nôtre.
Dorénavant, une série de critères complexes viendra fixer le nombre de mineurs isolés placés dans chaque région, des jeunes qui bénéficient d'une protection accrue de leurs droits. Rosario Pérez Santana est la coordinatrice de l'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance aux Canaries.
Lorsque nous parlons d'accueil, nous ne parlons pas seulement d'accueil dans un centre de protection, mais aussi de garantir l'inclusion au niveau local, au niveau de la santé et au niveau de l'éducation.
Les premiers mineurs non accompagnés devraient quitter les Canaries cet été afin de rejoindre la péninsule. Un agenda qui pourrait toutefois se voir freiné par les recours juridiques lancés par plusieurs communautés autonomes dirigées par le PP, la droite espagnole, Nicolas Kirilowitz, Las Palmas de Gran Canaria, RFI.
En France, la loi de simplification complique la lutte contre le réchauffement climatique.
Un projet de loi dont l'examen a débuté ce mercredi à l'Assemblée nationale et qui promet des débats houleux. Le gouvernement le défend comme une cure nécessaire, moins de normes, moins de paperasse, plus de liberté pour les entreprises. La gauche fustige, elle, un projet anti-écologique. Plus de 1000 amendements ont d'ailleurs été déposés. La droite et l'extrême droite veulent en profiter pour faire sauter de nombreuses normes environnementales. Lucille Gimbert.
Il faudrait réduire la bureaucratie qui pèse sur la compétitivité des entreprises françaises. Voilà la ligne du gouvernement. Mais avant même son examen en séance, ce texte dit de simplification a été profondément remanié. Les députés de droite et d'extrême droite ont fait supprimer les zones à faible émission qui visent à réduire la pollution de l'air en ville. Ils ont vidé de sa substance le zéro artificialisation nette, une politique pour freiner l'étalement urbain et préserver la nature. Deux acquis environnementaux démentis. Mandat d'Emmanuel Macron. Des amendements veulent aussi supprimer des dizaines et des dizaines d'institutions intermédiaires qui garantissent le droit à l'environnement, à la santé et à la participation démocratique des Français. Par exemple, la police de l'environnement, l'agence qui accompagne les entreprises dans leur décarbonation, le Haut Conseil pour le climat qui évalue l'action publique en matière de lutte contre le changement climatique ou encore des instances de consultation des citoyens lors de grands projets industriels. Bref, pour les élus de gauche et les associations écologistes, ce texte est devenu un véritable cheval de Troie de la dérégulation environnementale.
Explication signée Lucille Gimbert du service environnement de RFI.
Enfin, Martin, Manchester United se complique la tâche.
Des Mancuniens qui avaient le match en main et la victoire presque en poche hier soir en quart de finale aller de la Ligue Europa. Des Red Devils finalement rejoints sur le gong par l'Olympique Lyonnais. L'OL qui s'en est remis à Ryan Cherki et à une faute de main d'André Onana pour égaliser de partout hier soir. Avant le match retour jeudi prochain à Old Trafford, la Ligue Europa pour les nuls. Décidément hier soir, nul aussi entre Glasgow Rangers et Bilbao. Un partout entre Tottenham et Francfort. Personne n'est parfait, sauf peut-être vous, Julien Coquelrem.
Et vous, bien sûr, Martin Guez. Merci beaucoup, à tout à l'heure. Vendredi 11 avril 2024, bienvenue à vous. RFI Matin, 3 heures d'information et à nouveau les droits de douane de Donald Trump à la une, son revirement et la pause annoncée de 90 jours sur les surtaxes réciproques sauf pour la Chine. On décrypte ce matin les raisons, les conséquences de ces décisions. C'est la question d'aujourd'hui, l'économie dans une heure. D'ici là, à 6 heures, temps universel, on parle du leader italien de la tomate en conserve qui craint de voir déferler sur les marchés européens les tomates chinoises qui partaient jusque-là aux États-Unis. Et plus près de nous, dans moins de 20 minutes, le journal Afrique nous emmène à Madagascar, la grande île soulagée de la pause qui lui évite pour l'instant 47% de droits de douane pour les produits envoyés aux États-Unis. Les autorités s'emploient désormais à obtenir l'annulation définitive de la mesure. À suivre d'ici là notamment nos deux invités. Dans une demi-heure, Maximilienne Gombe, directrice exécutive du réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale. Et à 6h20, temps universel, le chef d'état-major de l'armée de terre en France, Pierre Schill, au micro d'Arnaud Pontus. Mais pour commencer, à la une en Asie, alors que le président de l'Indonésie est actuellement en tournée au Moyen-Orient, fervent défenseur des Palestiniens, Prabowo Subianto, a prévu de passer par les Émirats Arabes Unis, en Turquie, en Égypte, au Qatar et en Jordanie, avec un objectif, discuter du sort des Gazaouis et fixer les termes d'une évacuation des victimes de la guerre entre Israël et le Hamas. Bonjour Heike Schmidt.
Bonjour Julien.
Le chef d'État de la plus grande nation musulmane du monde a proposé d'accueillir sur son sol des Palestiniens.
Oui, tout à fait. Le président indonésien veut montrer son engagement aux côtés des Palestiniens. Prabowo Subianto sait qu'il peut compter sur le soutien de l'opinion publique lorsqu'il propose justement de jouer un rôle plus actif pour mettre un terme à la guerre à Gaza. Et au passage, Julien, cette tournée au Moyen-Orient lui offre aussi une belle occasion de faire oublier les manifestations contre des coupes budgétaires et des dérives autoritaires qui l'ont mise en difficulté ces dernières semaines.
Il faut dire que parmi les 280 millions d'habitants de l'Indonésie, il y a 90% musulmans. La cause palestinienne est très populaire.
Oui, c'est vrai. L'Indonésie n'a pas de relations diplomatiques avec Israël et les Indonésiens ont d'ailleurs protesté massivement contre l'offensive israélienne à Gaza suite à l'attaque du 7 octobre. Alors, avant d'embarquer pour Abu Dhabi, le chef d'État a marqué les esprits en proposant d'accueillir des Gazaouis sur le sol indonésien. Écoutez-le.
Nous sommes prêts à évacuer ceux qui sont blessés, traumatisés ou qui sont orphelins. Nous organiserons le transport pour toute personne volontaire recommandée par les autorités palestiniennes. Dans une première vague, nous allons accueillir environ 1000 victimes de la guerre, à une condition que chacun ait donné son accord et qu'il soit accueilli en Indonésie de manière temporaire.
Alors le président dit bel et bien temporaire, Heike. Il s'agit donc plutôt d'une évacuation sanitaire et d'un geste humanitaire que d'une véritable politique d'accueil.
C'est bien ça. Lorsqu'en janvier dernier, Steve Witkoff, l'envoyé spécial du président américain Donald Trump, a suggéré l'Indonésie comme terre d'accueil pour une partie des quelques 2 millions de Gazaouis, eh bien les autorités indonésiennes ont qualifié ce plan d'irréaliste. Jakarta a aussi rejeté le plan du président Donald Trump de faire de Gaza la Riviera du Moyen-Orient. Et le ministre des Affaires étrangères avait fait savoir que l'Indonésie était contre toute tentative de déplacer les Palestiniens par la force.
Mais combien de temps ces Palestiniens victimes de la guerre pourront-ils rester en Indonésie?
Prabowo Subianto a promis que les Gazaouis évacués resteraient le temps d'être soignés et ne retourneront chez eux que si les conditions sécuritaires le permettent. Difficile d'imaginer ce retour dans les conditions actuelles.
Cet accueil temporaire risque donc de devenir un accueil permanent.
Oui, mais cela pourrait évidemment compromettre toute perspective d'une solution à deux États. Solution que Jakarta défend pourtant de longue date. Plutôt que de déplacer les Gazaouis, eh bien, le credo de l'Indonésie est d'aider à la reconstruction en juin dernier, peu avant d'arriver au pouvoir. Prabowo Subianto avait d'ailleurs déclaré que son pays était prêt à envoyer des troupes de maintien de la paix à Gaza.
Heike Schmidt, à la une en Asie. Merci beaucoup. Et dans l'actualité ce matin, l'Ukraine et ses nouvelles frappes russes sur Kiev et plusieurs villes du pays. 2 morts et 35 blessés alors que de son côté, l'armée russe revendique la prise d'un village dans la région frontalière de Soumy. Ce serait une avancée dans cette zone du nord-est dont les troupes de Moscou avaient dû se retirer dès le printemps 2022. Mais quelle frappe ! Presque quotidiennement, la ville de Soumy n'est qu'à une trentaine de kilomètres de la Russie. Et sur place, les civils payent le prix fort des bombardements. Il y a 2 semaines, une explosion dévastait tout un quartier résidentiel. Notre correspondante Emmanuelle Chaz s'est rendue sur les lieux. Reportage.
À Soumy, dans ce quartier à quelques minutes de voiture du centre-ville, la vie s'est arrêtée le 24 mars dernier, lorsqu'une puissante explosion a soufflé les vitres d'une vingtaine de bâtiments, dont une école. Tous ont cru à une frappe russe, mais il pourrait s'agir d'un acte de sabotage ou d'un accident survenu dans un dépôt de munitions dont tous ignoraient l'existence. Alors que les autorités ne donnent pas de détails sur les faits, Oleg, un sapeur-pompier qui était sur place, revient sur les lieux dévastés.
C'est l'école.
C'est l'école. Vous voyez dans quelles merveilleuses conditions nos enfants vont maintenant pouvoir étudier. Au moment de l'attaque, ils étaient dans l'abri, environ 40 enfants. Et la force du souffle était telle que la porte s'est bloquée.
Quelle que soit l'origine de l'explosion, les Ukrainiens en rendent la Russie responsable. Parmi les enfants présents ce jour-là, Diana, 9 ans, revient avec son père Oleksiy. Elle raconte ce qu'elle a vécu.
Je me suis envolée de ma chaise. J'étais simplement restée assise dans l'abri pendant le cours et puis il y a eu un grand bruit. Le plafond s'est fissuré, il y avait du verre partout et de la fumée. J'ai bondi de ma chaise et mon père a commencé à m'appeler quelques minutes plus tard. Il m'a dit que je pouvais partir. Alors avec Klinka, c'est mon ami, on a ouvert la porte et on s'est enfui aussitôt.
Au-delà des conséquences de cette explosion, Oleg le pompier s'inquiète des méthodes toujours nouvelles employées par la Russie pour détruire les infrastructures ukrainiennes.
C'est comme ça tout le temps, soit des établissements médicaux, soit le secteur résidentiel. Et ce n'est pas le seul cas. Les Russes lancent constamment des bombes sur des immeubles résidentiels de 9 étages, des roquettes sur des zones résidentielles. Mais il y a un nouveau truc. Depuis début mars, leurs drones attaquent de manière chaotique différentes parties de la ville, en plein milieu de la journée, les jours fériés. Et il y a des frappes sur des aires de jeu, des frappes directement sur les routes. Je ne sais pas, c'est juste pour terroriser la population d'une manière ou d'une autre.
Ce 24 mars à Soumy, un miracle s'est produit, selon Oleg. Même s'il y a eu plus d'une centaine de blessés, personne n'est mort. Mais depuis, à travers la région, des dizaines d'autres bombardements se sont produits et les habitants de Soumy vivent dans l'angoisse d'en être à nouveau victimes. Emmanuel Chaz, Soumy, RFI.
Notre reportage international en Ukraine à retrouver sur RFI.fr et notre application Pure Radio.
RFI Matin.
Et un œil sur les unes des quotidiens français en ce vendredi matin. Des journaux toujours monopolisés par Donald Trump et sa pause décrétée sur les droits de douane réciproques instaurés contre de nombreux pays. Tout le monde sauf la Chine repasse à 10% pour l'instant et Ouest-France s'interroge. 8 jours de tempête et maintenant il reste les 145% de surtaxes imposées contre la Chine. Et une économiste craint dans les colonnes du quotidien que si la moitié du PIB mondial se fait la guerre, ce soit la récession pour tous. Le Figaro s'inquiète lui aussi de la guerre commerciale ouverte entre Pékin et Washington. Le choc, écrit le journal, devrait geler les échanges entre les deux marchés et obliger Pékin à chercher de nouveaux débouchés. L'Europe craint un afflux de produits chinois, titre Le Figaro. Le Monde et l'Opinion reviennent de leur côté sur les raisons du revirement trumpien et identifient une cause majeure, le risque d'implosion du marché de la dette américaine, comme l'écrit Le Monde. Les créanciers de l'Amérique terrasse Trump, titre pour sa part l'Opinion. Le président a plié sur les droits de douane après seulement 2 jours de tension sur le marché obligataire, développe le journal. Le taux de la dette publique américaine à 10 ans est passé de 4 à 4,5%. Or, si l'Amérique peut survivre à la chute de 20% de l'action Google, elle ne peut pas se permettre de laisser ses taux d'intérêt s'envoler. Et puis pas de droits de douane, mais toujours Donald Trump, cheveux au vent, en couverture de Libération, qui publie son Libé des écrivains, 28 autrices et auteurs s'emparent de l'actu et à leur tête Margaret Atwood, autrice de la célèbre série dystopique La Servante écarlate, dépeignant une Amérique plongée dans une dictature chrétienne fondée sur le contrôle des femmes. Assiste-t-on aujourd'hui à une révolution d'extrême droite aux États-Unis? Oui, répond l'écrivaine. La situation actuelle en présente tous les symptômes. 7h23 à Paris. Et dans notre reportage France, ce matin, la belle aventure dans laquelle se sont lancées des femmes immigrées, sans papier, sans emploi pour la plupart, à Grigny, dans le département de l'Essonne, pas loin de Paris. Elles ont fondé en 2019 un collectif baptisé les Mamas de Grigny, car au-delà de leur situation précaire, elles partagent une passion, la cuisine. Auparavant, c'était à la sauvette devant la gare de la ville qu'elles faisaient et vendaient à manger, s'exposant régulièrement aux forces de l'ordre. Aujourd'hui, elles se sont engagées dans un processus de professionnalisation pour espérer une régularisation de leur situation et une autonomie financière. Aram Beng est allé à leur rencontre.
Devant l'espace jeunesse Nelson Mandela du quartier de la Grande Borne, une bonne odeur de cuisine titille les narines. Chaque mardi et jeudi matin, les mamas de Grigny occupent la cuisine du centre social mis à leur disposition par la municipalité de Grigny. Bonjour.
Bonjour.
Raphaël.
C'est ça.
Raphaël Lebouc travaille pour l'association qui accompagne les mamas dans leur projet de professionnalisation en cuisine.
Donc, vous êtes dans la cuisine et je peux peut-être vous laisser rencontrer ces dames.
Parmi les 6 dames qui s'affairent dans la cuisine, Cécile, une veuve de 40 ans, originaire de la République démocratique du Congo.
Aujourd'hui, on fait la tchéké avec poisson. Par semaine, on travaille 2 fois, mardi et jeudi. On travaille pour les sans-abri avec les gens qui sont en précarité, donc on les aide.
Pendant que Cécile coupe les oignons, Aïcha, une Ivoirienne de 30 ans, est en train de frire du poisson.
On fait au poisson avec achéké aujourd'hui. Et à part les achéké, vous avez d'autres recettes. Si on fait le tchep, on fait le mafé, on fait le yassa, on fait le poto-poto, on fait le tchakrine.
De l'autre côté de la cuisine, Fatoumata, une quinquagénaire malienne, s'occupe, elle, du dessert.
Moi, j'ai fait les salades de fruits. On est content pour faire le moment de griner, là, c'est très bien. Avant, je ne travaille pas, je pars à la gare pour vendre.
Oumou passe la achéké à la vapeur. Cette quadragénaire burkinabé faisait, elle aussi, de la vente illégale de nourriture.
J'ai vendu le tchèp à la gare. On ne part pas à la gare maintenant, à cause de la mairie qu'on a sorti avec les gares là.
Une période révolue donc pour les mamas de Grigny qui ne font plus de la vente à la sauvette. Depuis 2019, elles sont accompagnées par les GRDR, groupement de recherche pour le développement rural. Raphaël Le Boucané, la chargée des missions entrepreneuriat et initiatives féminines.
Le but du GRDR, ce n'est pas de seulement faire un accompagnement juste pour leur donner des locaux et les aider à cuisiner, c'est lever les freins sociaux. Donc ce sera sur des questions de logement, de rémunération, mais aussi de papier, effectivement. C'est nous qui nous occupons de leur dossier et c'est vrai qu'on va essayer de valoriser leur engagement citoyen sur le territoire.
Le projet Les Mamans de Grigny permet à des femmes précaires de bénéficier de formations pour renforcer leurs compétences en cuisine et en gestion. L'objectif de ces femmes immigrées est d'ouvrir un restaurant solidaire à Grigny, une ville où une large majorité de la population vit en dessous du seuil de pauvreté.
Aram Beng pour notre reportage France. Et bientôt 5h30, en temps universel dans moins de 4 minutes à présent, le journal Afrique et tout de suite de la musique avec la franco-algérienne Samira Bramia et son titre Sankara, c'est dans la sélection du mois d'RFI. Bramia et son titre Sankara dans la sélection du mois de RFI que vous retrouvez sur le site d'RFI Musique, musique.rfi.fr. Et le journal dans une minute sur la radio du monde. A tout de suite.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur le thème d'aujourd'hui.
Dans notre émission Questions de femmes, bien se nourrir quand on manque d'appétit. Conseils nutrition pour retrouver le goût de manger pour une alimentation santé.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Semaine plutôt folle sur le terrain des barrières douanières, après l'annonce par Donald Trump d'un gel de 90 jours des taxes à l'importation qu'il venait d'imposer et du maintien de celles décidées pour la Chine, Pékin a appelé au compromis, ouvrant la porte à des négociations. Le rapport de force n'en reste pas moins à un niveau élevé.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Samedi, à partir de 17h10 TU.
RFI.